Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Et au sommaire du sous-marin aujourd'hui, Christelle Morancé a annoncé les coupes budgétaires dans le budget culture de la région. Quelles conséquences, notamment pour les associations qui existent en partie grâce à ces subventions publiques? On s'est rendu à la manifestation de ce matin devant le théâtre du Quai. Plus de 500 personnes environ s'y sont réunies. Et Hugo s'est entretenu hier avec Marion Colletter, directrice adjointe du CNDC. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. La culture est en danger, c'est le cri d'alerte que lancent les différents acteurs de la vie culturelle du Maine-et-Loire. Récemment, Christelle Morancé, présidente régionale des Pays de la Loire, a annoncé un plan d'austérité visant à réduire de 73% les subventions pour la culture. Alors très clairement, c'est la mort immédiate de nombreuses associations et une mort lente pour celles restantes. Au-delà de ça, c'est aussi un appauvrissement culturel et intellectuel qui s'annonce. C'est dans ce contexte que ce matin a eu lieu un rassemblement puis une marche pour dénoncer cette annonce.
Sans les artistes, sans leurs œuvres de tout type, nous perdons l'équilibre. Et quand nous perdons l'équilibre, nous risquons de tomber. Quand l'humanité est à terre, elle devient vulnérable et servile. Alors ensemble, de tous côtés, unissons nos forces pour sauver la culture, car en sauvant la culture, c'est nous-mêmes que nous sauvons.
Ce que l'on vient d'entendre, c'est le maire de Muré-Rigné. Ce matin, il était sur scène avec une dizaine d'autres élus devant le théâtre du Quai. Devant eux, une foule composée de plusieurs centaines de personnes. Tous sont ici pour défendre la culture, et tous sont indignés par les propositions de Christelle Morancé. Jean-Philippe est musicien à l'Orchestre National des Pays de la Loire. Pour lui, les annonces étaient un choc.
Surtout beaucoup d'incompréhension, un gros sentiment de trahison en fait, par rapport à la région, puisque ces coupes massives sont faites absolument sans aucune concertation, sans aucune prise en compte des conséquences pour l'ensemble des salariés du secteur, pour tout le tissu associatif ou culturel qui a mis des années et des années à se structurer, pour tous les financements croisés entre les collectivités. Donc c'est une situation absolument scandaleuse.
Pour d'autres professionnels, après le choc, vient l'incompréhension.
Moi, je suis quand même assez en colère. Et je suis un peu... Je me pose la question de quelle... si elle se rend compte de ce qui se passe sur le terrain, en fait. Moi, je pense vraiment, en tout cas, au fait d'amener la culture vers des publics qui n'ont pas forcément accès. Et je me demande ce qui lui passe par la tête et si elle s'imagine les répercussions qu'il va y avoir vraiment sur place, vraiment sur le terrain, quoi. Là, j'en suis là, moi.
Dans la foule, nous retrouvons des étudiants du CNDC. Pour eux, défendre la culture, c'est aussi défendre le futur.
En vrai, c'est un peu de peur d'abord, parce que nous, c'est vraiment, ça touche vraiment notre métier. C'est un peu effrayant de voir qu'il y a autant de budget qui va être enlevé. Et puis même, c'est des interventions pour les écoles ou des choses comme ça qui vont être retirées aussi. C'est assez angoissant pour la culture.
C'est sûr qu'il y a clairement un manque de considération de la culture et aussi du rôle, de l'importance que la culture peut avoir dans notre société. Et je me dis qu'en fait, on voit ces structures culturelles comme étant pas obligatoires et comme étant pas nécessaires. Et c'est quelque chose qui m'inquiète, notamment vis-à-vis de notre futur. Moi, en tant que par rapport à mon travail, mais aussi par rapport à toutes les personnes qui pourraient avoir accès à ces cultures-là, même d'un point de vue pédagogique. Et je me dis qu'en fait, tout l'argent qui va être retiré, c'est de l'argent qui va manquer plus tard et on va juste perdre un accès fondamental. Et je trouve ça profondément dommage que ce soit fait à un niveau politique et qu'on ne prenne pas encore aujourd'hui en considération la culture comme étant quelque chose de fondamental.
La foule s'est ensuite dirigée vers l'hôtel de ville. En tête de cortège, il y avait un cercueil mais aussi de nombreuses croix. Le tout accompagné de la marche funèbre de Chopin. Tout ceci comme un dernier hommage que l'on ferait à la culture.
Et d'ailleurs, on va revenir sur la suppression de ces aides financières et les enjeux politiques avec Alice, qui est avec nous dans le studio. Salut Alice.
Salut Lisa. Ce matin, à 9h pétante, et même un peu avant et un peu après, ils étaient là. Le monde culturel angevin, du moins une partie, s'est réuni devant le Théâtre du Quai. Très vite rejoint par le Planning Familial 49, la Mission Locale d'Angers, des danseurs du CNDC, des musiciens de l'ONPL, en somme, des artistes de tout horizon. Sur place, il y avait aussi des élus municipaux, régionaux, de l'opposition et même des élèves. Tous et toutes dénoncent la décision très brutale et soudaine de Christelle Morançais, la présidente des Pays de la Loire, de vouloir baisser à plus de 70% les subventions régionales. Comprenez ici, c'est entre 100 et 150 millions d'euros. Les prises de parole de représentants syndicaux, d'élus et de présidents de structures culturelles et associatives sont unanimes. Ils ont exprimé leur colère, leur rage de vouloir se battre et surtout la nécessité que ce budget ne soit pas voté en l'état. Ils s'insurgent du manque de dialogue et de concertation, à la fois avec les élus, mais aussi avec toutes les structures concernées qui vont subir ces baisses de financement. En clair, Christelle Morançais a joué solo, sans prévenir personne. Et d'ailleurs, pas de présidente de région à l'horizon ce matin. Elsa Richard, conseillère régionale et municipale des écologistes, s'interroge, de manière légitime, sur les prises de position idéologiques de Madame Morançais. Et elle n'est pas la seule. Car taper dans les comptes du planning familial, des missions locales et de toutes les structures qui font vivre la culture dans les Pays de la Loire, du festival Premier Plan à la compagnie de théâtre Zur, en passant par le festival d'Anjou et la folle journée de Nantes, sans oublier toutes les petites compagnies de spectacles vivants dans les ruralités, c'est briser le lien social qu'elles permettent. Médiacité Nantes estime d'ailleurs une baisse de budget de plus de 21 millions d'euros. Pour tous ces acteurs du service public de la région, la lutte continue. Une AG se tient d'ailleurs en ce moment même au Théâtre du Quai. La prochaine séance pour eux, c'est le 20 décembre, le jour du vote du budget régional. Le Père Noël viendra-t-il à leur rescousse ?
Merci Alice. Et on écoute maintenant dans le sous-marin l'interview d'Hugo. Il s'est entretenu avec Marion Colletter, directrice adjointe du CNDC sur cette thématique.
Marion Colletter, bonsoir.
Bonsoir Hugo.
Vous êtes donc directrice adjointe du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine, et vous êtes également élue au Conseil National du Syndéac, le premier syndicat des entreprises du spectacle vivant. La région Pays de la Loire a annoncé une baisse de 75% de son budget alloué à la culture, une coupe franche qui a pris de court tous les acteurs culturels des Pays de la Loire. Première question, Marion Colletter, comment avez-vous reçu cette annonce ?
De façon évidemment très inquiétante. Parce qu'au-delà des coupes budgétaires, l'idéologie qui apparaît dans les mots de la présidente de la région Pays de la Loire est vraiment surréaliste. Là, ce qui s'annonce, c'est quand même une destruction massive et brutale de tout l'écosystème culturel et au-delà, on y reviendra sûrement, en région Pays de la Loire, de façon imminente.
La destruction de l'écosystème. Qu'est-ce que vous appelez l'écosystème culturel pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire ?
L'écosystème culturel, c'est l'ensemble des liens, des collaborations, des partenariats de tous les acteurs, actrices du milieu culturel, c'est-à-dire évidemment les artistes. On les nomme en premier, c'est de ces artistes que se construit l'ensemble de cette activité culturelle et artistique. Donc les équipes qui accompagnent ces artistes, l'ensemble des structures culturelles comme nous, CNDC, comme ici à Angers, le Chabada, le Quai, mais aussi toutes les associations qui ne sont pas encore labellisées, mais qui ont une importance décisive dans cet écosystème, également tous les festivals qui vont là aussi être pris de court et dans un temps qui ne va pas leur permettre de pouvoir réaliser leur festival dans les mois à venir.
Il n'y a aucun secteur de la culture qui est sauvegardé par ces coupes budgétaires. On a appris il y a quelques jours, on commence à avoir des chiffres un peu qui tombent, mais par exemple pour l'ONPL, l'Orchestre National des Pays de la Loire, c'est plus d'un million d'euros de subventions qu'ils vont perdre. C'est des chiffres colossaux qui remettent vraiment en question, c'est pas que les musiques actuelles ou le spectacle vivant, c'est vraiment tout le secteur et l'industrie culturelle dans son entièreté qui est touchée.
Alors, l'industrie culturelle, je n'utiliserai pas ce terme-là parce que, justement, je pense qu'il faut parler là aujourd'hui de biens culturels, éviter ce terme-là commerce, même si justement, c'est ça, c'est que c'est une complémentarité entre les industries culturelles qui ont moins besoin de financement public parce que c'est des systèmes un peu plus commerciaux, on va dire, rentables, et l'ensemble du monde culturel plutôt associatif, on va dire, qui a besoin des financements publics pour exister, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas rentables, mais qui ont un pouvoir et une force de cohésion de la société qui donne ce statut, comme on dit, de service public de la culture.
Ouais,
et c'est ce qui, je crois, n'existe plus dans l'esprit et dans les politiques culturelles de la région.
Mais justement, en parlant de service public culturel, peut-être qu'on peut questionner cette notion de rentabilité, puisque la rentabilité du monde de la culture, mais comme d'ailleurs des secteurs, du secteur hospitalier ou même du secteur de l'accompagnement de nos aînés, on est obligé aujourd'hui d'être dans une logique de rentabilité, quel que soit notre domaine d'activité. Ça s'impose à nous.
Alors, j'ai envie de dire non, il ne faut pas que ça s'impose à nous. C'est justement ces politiques...
Christelle Morancel l'impose au monde de la culture.
Ces politiques de droitisation qui imposent ça à la culture. Mais c'est encore oublié, et là je dépasse la notion de culture, on va au-delà, on parle aussi du social, c'est oublier la notion de service public. Les impôts, ils sont là pour payer ce service public. Et je crois que le gouvernement Macron a détruit, en fait, cette notion-là depuis son arrivée. Et là, c'est de pire en pire parce que les collectivités s'y mettent aussi.
Est-ce que cette notion de service public culturel est amenée à disparaître ?
Ben, en région Pays de la Loire, oui. J'ai un peu peur de ça, vraiment. En tout cas, c'est ce que amène cette décision-là de la région. C'est aussi une perte, on va dire, de sens total, en fait, d'oublier que la culture, cette structuration de la culture aujourd'hui en France, elle est issue de toute une politique de décentralisation mise en place sous le gouvernement de Gaulle. Je le signifie parce que Madame Bourancet a eu l'occasion aussi de s'associer à ce type de politique. Donc sous Malraux, toute cette décentralisation a été mise en place et elle a continué à se structurer au fur et à mesure des décennies et a donné cette exception culturelle française qui là est remise complètement en cause et c'est un, du coup ce n'est pas juste là j'ai envie de dire des initiatives d'associations qui ont 5 ou 10 ans d'existence, c'est plus de 70 ans de décentralisation qui est en train de partir en fumée.
150 000 emplois, le secteur de la culture dans les Pays de la Loire, selon des chiffres rapportés par Ouest France. Donc, on parle de cette conception sociale de la culture comme créatrice de liens sociaux forts, comme générateur d'émotions. Et on va revenir sur cette notion de bonheur national brut, un indicateur alternatif au PIB, les indicateurs de croissance. Cependant, ça va impacter la croissance, de fait, cette baisse de subvention, puisque c'est 150 000 emplois qui pourraient disparaître.
En tout cas, ces 150 000 emplois du secteur culturel sont effectivement mis en danger. Et au-delà de ça, il y a tous les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la communication, des transports qui vont être touchés. Parce que, évidemment, le secteur de la culture n'est pas un entre-soi. C'est justement aussi ce qu'on a envie vraiment là de montrer. C'est que notre action, elle se diffuse sur l'ensemble des autres secteurs. Et surtout, elle est à destination des citoyens, des citoyennes. Et c'est évidemment eux qui vont être impactés. Madame Morancet dit qu'elle veut se recentrer sur ses compétences prioritaires, notamment la jeunesse et l'emploi. Les conséquences de ce qui va se passer là vont toucher principalement l'emploi et la jeunesse.
Et la jeunesse. Comment est-ce que vous faites la lecture de cette décision de Christelle Morancet de baisser de 75% le budget culturel ? À votre avis, quel est son raisonnement ? Qu'est-ce qui peut l'amener à vouloir baisser cette subvention et réduire ce budget ? Est-ce que c'est purement politique ?
J'avoue que c'est incompréhensible pour moi. parce que donc l'État demande des économies à toutes les collectivités. Pour la région des Pays de la Loire, il semblerait, enfin, c'est 40 millions d'euros qui leur a été demandé d'économies. Madame Morancet travaille sur un plan à 100 ou 150 millions d'euros. Tout ça n'est pas encore officiel. À part effectivement une façon très zélée de répondre à cette chose-là, je ne vois pas de stratégie en fait derrière. Et à cette chose-là, je trouve très dangereux que l'État ne réagisse pas à ça. ne réagissent pas à cette décision qui a été faite, en disant tout simplement, mais on ne vous a pas demandé 100 ou 150 millions d'économies, on vous a demandé 40 millions d'économies. Et là, ce que vous prévoyez va détruire tout un système et avoir des conséquences bien plus graves.
Oui, et c'est vraiment une des enjeux aussi sur la vitalité et la représentation des pays de la Loire à l'échelle nationale. Il y a quand même des structures, on parlait à l'instant de l'ONPL, mais également le CNDC, dont vous êtes la directrice adjointe, qui participe au rayonnement national, voire international des pays de la Loire.
Oui, oui, complètement. Effectivement, là, on est tous mobilisés en Pays de la Loire, mais bien sûr, comme vous l'imaginez, vu que nous avons des partenariats et un rayonnement au niveau national et international, cet écho-là commence à prendre de l'ampleur ailleurs. Et effectivement, c'est se couper aussi pour beaucoup, là, c'est se couper de la possibilité d'augmenter, de développer, de se déployer encore et de rayonner au-delà pour les pays de la Loire. Donc c'est encore une fois, c'est incompréhensible. En fait.
Et peut-être on pourrait prendre un petit temps pour rappeler vraiment en détail, et je vais vous demander un peu, vous, votre avis, votre sentiment sur l'importance du spectacle vivant, l'importance de la culture. Quel est le rôle social de la culture aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il est important de préserver et de sauvegarder la culture?
Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, qui est, en tout cas, j'ai l'impression, on a l'impression, ce n'est pas moi qui fais ces constats, plus intolérante, plus divisée, la culture est l'endroit qui fait lien, qui partage, c'est du commun. On a tous une culture commune qui peut être diversifiée, qui peut être diverse, et c'est ça encore une fois l'intérêt de cette exception culturelle, on va dire, dans la décentralisation et dans la démocratisation culturelle qui a été mise en place depuis des décennies, c'est la possibilité d'avoir cette diversité culturelle qui peut permettre de parler à tout le monde et qui peut permettre de se regrouper. Encore une fois, quand on est dans une salle de spectacle, je veux dire, c'est l'un des derniers endroits où on peut se retrouver dans une diversité de personnes qui regardent encore ensemble, à côté, les uns des autres, une même chose, et ne ressentent pas toujours les mêmes émotions. Et ça, heureusement, c'est aussi pareil, cette liberté que permet le spectacle vivant et l'art. Mais par contre, on partageait un moment ensemble. Et ça, ça fait du commun, et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui.
Et ce commun est vraiment indispensable aussi. On parle beaucoup des difficultés qu'ont les jeunes, on parle des dangers des réseaux sociaux, on parle de la désinformation régulière auquel nos enfants et nos petits-enfants, enfin en tout cas toute cette jeunesse est soumise. On est toujours inquiet quant à mais quel sera l'avenir de demain, mais ça aussi, ça permet d'imaginer aussi un futur commun à la culture.
Oui, complètement, et c'est aussi une source d'émancipation. D'émancipation, pour revenir sur un exemple très concret, en fin d'année, l'année dernière, une enseignante vient avec sa classe de CM2, une classe qu'elle me décrit comme impossible à tenir. En arrivant, elle me dit, écoute, je suis désolée, je ne sais pas si on va pouvoir rester, parce que jamais on arrive à tenir plus de 15 minutes dans une salle, etc. Et ben là, il s'est passé 2 heures où ces enfants, donc de 10-11 ans, étaient ensemble à se toucher, à rigoler, à expérimenter des choses par le corps, par la danse, et en est sorti, libéré, avoir découvert des émotions, des sensations et partager encore une fois quelque chose ensemble. Quoi.
Marion Colletter avec nous. Directrice adjointe du Centre National de Danse Contemporaine et élue au Conseil National du Syndéac, le premier syndicat des entreprises du spectacle vivant. Marion Colletter, je voudrais vous faire réagir à une déclaration de Christelle Morancet, la présidente de région, qui, alors même qu'elle est, je suis sûr et certain qu'elle est absolument consciente de tout ce qu'on vient de se dire, elle tense le secteur culturel à se réinventer d'urgence.
Alors, cette réinvention, elle est en marche depuis plusieurs années, ça on pourrait le lui dire, et je pense qu'elle le sait néanmoins. Ça fait à peu près 10-15 ans, en fait, que le monde de la culture est en train d'évoluer, parce qu'on se rend compte effectivement que ce déploiement et cette façon de porter en fait un service public de la culture est de plus en plus menacée par l'État, par les collectivités. Donc on s'est tous déjà mis dans une réinvention de nos pratiques, la manière dont on parle à ces publics ou à ces citoyens, citoyennes plutôt, parce que c'est ça notre intention. Donc il est en marche cette chose-là, mais encore une fois, comme je l'ai dit au début, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être rentables, et le secteur de la culture l'est, mais il a une importance tout autre. Encore une fois, c'est la cohésion et l'émancipation et le commun d'une société.
Mélanie Alétruc, vous connaissez forcément très bien, co-directrice du Chabada, la salle des musiques actuelles angevine, s'interroge, elle, sur la privatisation annoncée du secteur culturel public. Est-ce que c'est la solution de privatisons pour être indépendant et ne plus dépendre des subventions de l'État ?
Eh ben non, je ne pense pas que ce soit la solution, parce qu'il n'y aura plus qu'une seule culture. Cette diversité dont on parle, qui peut effectivement, en tout cas, parler à tous et à toutes, à chacun, à différentes personnes, etc. C'est ça qui disparaîtra, cette diversité. Là, comme on dit, c'est cette complémentarité entre un secteur plus privé, commercial, qui existe et qui peut exister, plus de divertissement, moi, comme je dis, et ce secteur de la création, qui, encore une fois, apporte autre chose.
Une dernière question avant de revenir avec vous sur les incidences directes que cette décision va avoir sur le CNDC. Est-ce que vous voudriez annoncer un mot particulier à Madame Morancet ? Qu'est-ce que vous lui diriez ?
Peut-être en reprenant ce fameux tweet, certains mots de ce fameux tweet, il y a quelque chose qui m'a aussi très
le
très
tweet
choquée.
Où elle parle de où elle tense donc le secteur culturel, elle l'incite à se réinventer d'urgence, un secteur de la culture qui ne sait pas vivre sans subvention publique.
Exactement.
Pour mettre un peu dans le contexte.
Elle a effectivement attaqué, on va dire, le secteur directement dans ce tweet, et elle parle notamment d'associations très politisées. Et elle le dit de façon assez méprisante. J'aurais envie de lui dire, c'est dommage, on partage quelque chose de commun, la politique. On a envie de faire partie de cette pensée, la politique. Alors certes, peut-être pas avec les mêmes idées. Néanmoins, on devrait plutôt être heureux de cette démocratie, en fait, active. Et là, le fait de dire ça et de couper l'ensemble des financements et de détruire, en fait, ce système, donc d'asphyxier ces endroits dans lesquels il y a des idées qui s'échangent et qui se partagent, qui apparemment ne sont pas ces idées, asphyxier et détruire ça, c'est un déni de démocratie. Et ça, c'est très dangereux.
Marion Colletter, vous êtes la co-directrice du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine. On l'a appris, Premier Plan va perdre plus de 110 000 euros de subventions, l'ONPL plus d'un million d'euros. Quelles seront les incidences sur le CNDC de cette baisse des subventions régionales ? Combien ça va représenter déjà ?
Alors, la région nous finance à hauteur de 123 500 euros. Nous avions une baisse, comme la plupart des structures, de 5% il y a 2 ans. Et ça représente un peu moins de 7% de l'ensemble de nos financements publics. Donc, concrètement, nous, ça va toucher l'activité. On va devoir réduire la programmation qu'on réalise au quai, et sûrement une partie de nos actions artistiques et culturelles. Donc, encore une fois, ça va toucher l'offre qui est proposée aux citoyens et citoyennes, et à la jeunesse notamment, donc les usagers pour lesquels Christelle Morancet semble vouloir d'autres choses.
Est-ce que ça veut dire que concrètement, il y aura moins de spectacles organisés par le CNDC au sein du Théâtre du Quai ?
A priori, oui. En tout cas, malheureusement, ce sera sûrement l'automne 25 qui sera touché en termes de programmation et en termes d'éducation artistique et culturelle. Ça, on va dire, c'est l'effet direct. Il y a bien sûr d'autres conséquences, parce que s'il y a moins d'activités, on emploiera également moins de salariés occasionnels, donc des intermittents en technique et artistique aussi. Donc ça aura cet impact aussi sur l'emploi.
Un mariage territorial que vous avez travaillé depuis longtemps au CNDC, Angers est reconnu comme étant une terre fertile pour la danse contemporaine. De nombreux et de nombreuses professeurs de danse contemporaine et de danse de manière générale maillent le territoire angevin et des Pays de la Loire. Il y a une proposition autour de la danse qui est très forte ici sur ces territoires. Est-ce que ça va aussi remettre en question l'attractivité du territoire des Pays de la Loire concernant le secteur de la danse contemporaine?
Ah bah sûrement, effectivement, parce que évidemment ce milieu de chorégraphique dans la région, il se construit avec beaucoup de compagnies qui sont restées dans les Pays de la Loire après être passées à l'école du CNDC, et on se ravit de ça. S'il n'y a plus de soutien de la région à ces compagnies, évidemment, elles vont partir ailleurs. Donc oui, c'est un impact direct. Et on va dire que le quai est un des grands plateaux pour la danse, le plus grand plateau, on va dire, pour la danse en région Pays de la Loire. Si on doit encore, je dis encore parce que, oui, encore diminuer notre programmation, qui en plus rencontre un succès fort, enfin, on est à plus de 90, entre 90 et 93% de remplissage depuis deux saisons, donc on sent qu'il y a une vraie envie du public. On est déjà frustré de ne pouvoir faire que ça, et là on va encore devoir réduire cette offre culturelle, malheureusement.
Est-ce qu'il y aura également une incidence sur la formation? Tous les trois ans, vous accueillez une nouvelle promotion d'étudiants et d'étudiantes au sein du Centre National de Danse Contemporaine que vous formez. Vraiment, c'est une formation reconnue comme étant une formation d'excellence. Est-ce qu'il va y avoir une incidence directe sur la formation de ces étudiants et étudiantes?
Oui, il y aura une incidence parce que les étudiants et étudiantes sortants trouve évidemment du travail avec les compagnies, notamment des compagnies de la région. Et ça, ce sera compliqué pour eux de le trouver. Donc oui, il y aura évidemment des conséquences, comme vous le disiez juste avant, l'attractivité de ce territoire ne sera pas la même. C'est pareil, au CNDC, tout contribue en fait à son rayonnement. La programmation qui, voilà, à laquelle enfin, pour laquelle on met beaucoup d'ambition, fait aussi que ça attire ces candidats, candidates à venir à l'école du CNDC. Donc c'est encore une fois toute cette synergie, cette écosystème qui va être complètement troublé.
Merci beaucoup Marion Colletter d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur les ondes de Radio Campus. Merci beaucoup également d'avoir répondu à nos questions à l'occasion de ce plateau organisé par la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Évidemment, on vous souhaite très bon courage. On sera le relais sur nos radios associatives de toutes les revendications et de toutes les incidences que ça va pouvoir avoir sur le secteur de la culture. Je le rappelle, vous êtes directrice adjointe du Centre National de Danse Contemporaine et élue nationale au sein du CNDEAC. Merci beaucoup.
Merci Hugo.